de Boulevard 102.1.
Peut-être vous dire rapidement, avant qu'on se quitte, qu'il y a encore des problèmes sur la Capitale-Est, auteur Robert Bourassa, et sur Henri IV Sud, quand vous vous dirigez vers les ponts. Pour le reste, ça roule! Les filles, un gros merci. Denis Gravel qui est de retour demain. Antonine Iaccarini qui sera dans le caucus des midis.
C'est le fun de travailler avec vous autres.
C'est vraiment le fun.
C'est le fun. J'aime ça travailler avec Denis aussi, mais c'est le fun de travailler avec
vous. On jase demain à partir de 14h. Denis qui sera de retour.
Boulevard.
Boulevard.
Te t'y informer.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce, Portneuf, Bellechasse, Saint-Og, la Côte-de-Beaupré, Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102, maintenant 100% talk. Une propriété, Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Mon invité de ce soir dans le podcast de Marceau le soir, c'est Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain et éducatrice spécialisée. Salut Paul!
Je suis tellement heureuse d'être avec vous ce soir. Mes salutations sincères à toi, bel homme, et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Et le bonheur est pour moi, puis en plus tu me donnes une belle qualité en partant.
Profitez-en, je ne sais pas si ça sera comme ça durant toute l'heure, mais en tout cas, au moins, on part avec des bonnes bases.
Est-ce que c'est ressenti, Paul, où tu tentes de manipuler un peu ton animateur pour pas qu'il te pose des questions trop ambiguës parfois qui peuvent te laisser un peu perplexe par rapport à la pertinence de la question que je peux te poser?
Pour manipuler quelqu'un, on doit le savoir manipulable, ce qui n'est pas ton cas.
Oui, oui, ben, des fois, je le suis. Des fois, je me laisse manipuler. On est de même, hein, nous, les hommes, Paul.
Oh, et là, tu m'amènes sur un chemin que je ne partage pas. Je pense pas que c'est une question de sexe.
Ouais. Ouais, tu as raison. C'est pas une question,
de sexe. Je pense qu'il y a des moments dans notre vie où on est peut-être plus à risque.
Ouais.
Notre personnalité, ce qu'on a vécu, l'éducation qu'on a reçue, les événements qu'on a vécu vont nous influencer. Mais je crois profondément qu'il y a des moments dans notre vie où on est plus à risque. Puis, moi, j'aime beaucoup les documentaires de sectes. Ben, en fait, j'aime les documentaires qui racontent les humains. Et je suis toujours fascinée par cette capacité qu'ont les gourous, justement, de manipuler des gens qui sont brillants. Là. On pense que c'est des gens qui ne sont pas brillants, ouais. Mais pour plusieurs raisons, à des moments X de leur vie, ils ont été fragiles à ce message-là.
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. Ça fait des années que j'ai la chance de collaborer avec toi. Pour les gens qui t'entendent pour une première fois, tu es conférencière, tu es auteur aussi. Est-ce que tu as écrit un livre?
Oui. J'en ai écrit trois. Il y en a un quatrième sur la tablette. Je devrais en fait quitter pour des mois pour être capable de le terminer. Oui, c'est ça, avec rien d'autre qui me dérange. Oui, je suis auteur, je suis conférencière, je suis consultante, je suis à la radio, je suis à la télé. Je suis sur le terrain des vaches, donc je travaille avec la prévention du suicide, je travaille avec les jeunes de la rue. Moi, je pense que pour être quelqu'un qui enseigne, je suis à la radio aussi, ouais. Depuis 13 ans, pour être quelqu'un qui enseigne, il faut être sur le terrain des vaches. Il faut se coller aux humains. Puis pour évoluer, puis ça évolue tellement vite, là. Il y a toutes sortes de trucs qui sont lancés dans la population, puis toi, il faut que tu rattrapes ça au bon. Toutes sortes d'idéologies. Je me fascine de plus en plus pour les humains. Tu sais, des fois, tu as une passion qui s'éteint. Et moi, elle s'allume.
Elle s'allume constamment. Ben, c'est signe que tu es sur la bonne voie constamment. Comme on dit, tu es sur ton X, Paul Lévesque.
Je pense que oui.
Voilà. Ce soir, on a quelques sujets à aborder. On va commencer par le premier. Je le trouve franchement intéressant, la manipulation psychologique. Puis je vais te poser la première question. Est-ce qu'on peut être, toute la gang, susceptible d'être manipulé psychologiquement? Et l'autre, est-ce qu'on peut devenir un manipulateur psychologique sans le savoir?
Une réponse, personne n'est à l'abri d'un côté comme de l'autre. Quand on est, prenons le premier portrait, lorsque tu es, toi, susceptible de te laisser Avant, j'ai envie de dire la phrase qui définit. Ça va nous aider à comprendre que ça peut être dans les deux sens, puis ça peut nous attraper
J'aime
à
ça.
Tout moment.
Allons-y. Okay?
Une phrase, parce que des longues définitions, les gens les oublient. C'est quoi la manipulation psychologique? C'est influencer quelqu'un pour obtenir des avantages. Est-ce que tu comprends mieux pourquoi on peut être dans les deux sens à tout moment? Parce qu'on pense que c'est machiavélique. Là. Je ne te parle pas aujourd'hui des pervers narcissiques. Là. Je te parle de la manipulation psychologique, qui est un autre niveau. Là. On n'est pas dans le step du pervers.
Mais Paul, mes enfants ne sont pas méchants et me font constamment de la manipulation psychologique. Là.
Et oui, absolument. Pour ça, je te dis qu'on n'est pas à l'abri ni d'un bord ni de l'autre, parce que c'est influencer quelqu'un pour obtenir des avantages. Bon, des fois, c'est coquin. Ça, tu sais, je pense qu'on l'échappe tout. Parce qu'on veut tous avoir des avantages, à moins d'être masochiste, c'est ce qu'on veut dans la vie. Mais il y a des gens que c'est leur façon d'entrer en relation avec les autres. Et si tu as de l'empathie et tu as un bon cœur, je crois que la manipulation psychologique n'est pas dangereuse. Parce qu'il y a des éveils, tu comprends? Mais il y a des gens qui vont le faire constamment, donc ça devient relationnel, leur façon d'être en relation avec les autres. Et c'est là que les red flags doivent s'ouvrir, parce que tu as raison, les enfants nous font sans arrêt de la manipulation psychologique.
Les enfants, les animaux jouent avec notre psychologique. Là. Quand ils ont besoin d'attention, ils vont osciller un peu, je parle des chiens bien entendu, ils vont nous regarder, nous fixer, ils vont venir faire quelques gestes, là, passer au travers de nos mollets pour se faire flatter. Les chats font ça. La manipulation psychologique, elle existe un peu partout. Mais moi, ce qui m'intéressait, Paul, c'est de savoir si on devient... Est-ce qu'on devient manipulateur psychologique? Est-ce qu'on c'est quelque chose qu'on a en nous? Puis est-ce que c'est quelque chose qui est exploitable? Tu parlais des gourous tantôt. Est-ce que ces gens-là se sont montés, ont fait quelques lectures ou ont appris des autres ou sont plus alertes que les autres puis sont capables de contrôler le cerveau humain?
Oui. C'est pour ça que je te disais, quand tu as bon cœur et que tu es empathique,
ouais.
Le risque de détruire l'autre n'existe pratiquement pas parce que tu vas comprendre l'effet que ça a sur l'autre. Mais fusionne deux éléments. Pervers narcissique, ce que sont les gourous. Pervers narcissique plus manipulation psychologique, là, c'est dangereux. Ça n'a pas de bout, tu comprends? Puis, je sais pas si je t'ai déjà raconté... j'ai déjà fait la préface d'un livre où Michel Barrette, moi et Gabriel Lavallée, on avait été demandés. Je te l'avais-tu déjà raconté?
Gabriel Lavallée, rappelle-moi, Gabriel okay. Lavallée, c'est la dame qui était dans la secte de Moïse, c'est ça?
Exactement ça.
Voilà.
Donc, la secte de Moïse Thériault. Et elle a, peut-être vous avez vu le documentaire où vous y êtes intéressé, elle s'est fait couper un bras à froid durant toute une nuit par Moïse. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait, je ne sais pas si c'est encore ça, mais elle avait comme capitaine crochet en métal, avec une rose bleue dessus. Et j'ai été fascinée de l'entendre. Tu sais, j'avais vu les trucs documentaires lus, etc. Mais quand tu vois la personne, en personne, parce que souvent tu vas banaliser, tu vas dire... Eh bien niaiseuse, eh bien stupide, elle va juste à s'enlever le bras. Tu vas vulgariser ce qui est un filet qui s'est tissé, une toile d'araignée autour de la personne. Et quand elle en parlait, tu comprends l'immensité de la destruction que peut faire une manipulation psychologique qui est fusionnée à quelqu'un qui n'a pas d'empathie et qui n'a pas la bonté du cœur. Donc, si tu es un pervers narcissique, tout ce que tu veux, c'est être nourri par tous les moyens. Donc, c'est ouais. sûr que la manipulation psychologique, c'est influencer quelqu'un pour avoir des avantages sexuels, de contrôle, etc. Mais à plus petite échelle, on peut avoir des gens qui ne sont pas des gourous, bien sûr, mais qui sont monsieur et madame tout le monde, qui peuvent avoir... potentiel de destruction chez l'autre qui peut être intéressant. Okay.
Puis est-ce que ça peut s'apparenter, puis là, je m'excuse pour les questions niaiseuses, là, mais tu sais, souvent, j'aime bien poser des questions que, bon, que moi, que je me pose, mais aussi poser des questions des gens qui sont dans leur véhicule, qui nous écoutent présentement ou des gens qui nous écoutent en podcast par la suite. Ça peut-tu, des manipulateurs psychologiques là, qui se sont entraînés à manipuler les gens, que ce soit leur conjoint, leur conjointe, ça peut-tu s'apparenter à de l'hypnose? C'est-à-dire d'induire dans la tête des gens quelque chose qui va faire en sorte que la personne va être contrôlée sans le vouloir. Parce que tu l'as dit, là, les gens qui peuvent être frappés par un manipulateur psychologique ou une manipulatrice, ça n'a pas rapport avec le quotient intellectuel de la personne. Oh, donc, non, ça veut dire que ça vient chercher des trucs chez nous, dans notre cerveau, qui font en sorte qu'on répond favorablement à leurs demandes induites qui sont machiavéliques. Là.
Oui, il va se servir de la faiblesse de l'autre. Et là, on va parler pas d'intelligence cognitive, parce qu'il y en a à tout niveau, mais on va parler d'intelligence émotionnelle. Donc, ton intelligence émotionnelle va avoir un lien direct avec ta capacité de rebondir ou de rester enfermé dans les étaux. Puis tu sais, c'est quoi les signaux d'alerte? C'est quoi les red flags, justement?
Ouais.
La différence entre quelqu'un qui est charmeur... charmeuse, ouais, tu sais. Puis quelqu'un qui pourrait avoir un potentiel à développer une manipulation. Puis surtout, moi, je pense que on est beaucoup plus fort qu'on pense, mais s'en rendre compte le plus tôt possible avant que les filets se soient resserrés tellement fort que notre vulnérabilité sera la meilleure arme pour celui qui manipule. Donc, son idée, c'est de façonner l'autre de plus en plus. Puis tu vas voir, regarde les stratégies. La première chose, c'est qu'il va tenter de t'isoler. Quand on parle de manipulation, c'est que si je veux manipuler, je dois... Puis là, on parlait de sec, mais c'est complètement à l'opposé. Ils vont isoler les gens pour que les messages, ils viennent juste de lui. Donc, quand tu vis avec quelqu'un qui te manipule pour arriver à ses avantages, il va... Puis on parle de contrôlant, ça peut être des gens jaloux, ça peut être... Ils vont essayer de t'isoler pour qu'il n'y ait pas d'autres messages qui viennent à toi. Donc, on parle à ce moment-là de un peu comme si tu nourrissais le cerveau d'une seule nourriture. On manipule, au fond, le discours pour qu'on finisse par l'acheter. Tu sais? Donc, à ce moment-là, tu sais, là, si tu entends toujours le même discours, tu vas finir par y adhérer. Donc, ça, c'est un des éléments importants.
Donc, la personne va tenter, le prédateur, là, si on peut l'appeler ainsi, ou la prédatrice, va tenter de t'isoler. Donc, si tu as un bon groupe d'amis ou si tu as une grosse famille, puis tu es porté à demander conseil à gauche et à droite pour des trucs qui se passent dans ta propre vie, cette personne-là peut se sentir agacée et même se sentir détrônée par la place qu'elle a dans ta vie parce que les autres lui donnent des conseils. Donc, elle dit, attends un peu, là, mais pourquoi tu leur demandes des conseils à eux? Nous autres, on est un couple. Moi, je vais te donner les meilleurs conseils possibles. Je suis avec toi, je te connais. Eux autres, ils vont dire à peu près n'importe quoi. Donc, ils vont manipuler pour isoler. Ah, je trouve ça intéressant.
Oui. Okay. Ils vont vendre l'idée. Puis tu sais, c'est très... la manipulation, hein, c'est dosé. Hein, donc, il va être un vendeur d'hypothèses. L'hypothèse que finalement, ta mère te fait plus de mal que de bien.
Ah.
Que ton amie, elle a une mauvaise influence sur toi. Et donc, à force de te marteler, tu finis par y adhérer. Et son objectif, c'est de pouvoir avoir main mise sur toi sans aucun autre discours qui te ramène à l'ordre. Fait que ça, c'est un des premiers red flags. L'autre red flag, c'est il va te faire, elle ou il, vont te faire une pression pour prendre des décisions rapides. Donc, encore une fois, ne pas avoir accès à ton cerveau. Ne pas avoir accès à ton discernement, ta réflexion. Donc, il va beaucoup amener les trucs pour pas laisser d'espace pour que les gens viennent, pas laisser d'espace pour que tu puisses réfléchir. Encore une fois, une façon de contrôler l'esprit. Parce que si je réfléchis, j'ai du recul, je vais probablement avoir plus de chances à trouver ce qui est proposé douteux ou peu importe.
Donc, le manipulateur ou la manipulatrice psychologique va tenter d'induire en toi un sentiment d'urgence, ce qui va faire en sorte qu'il faut que tu prennes ta décision tout de suite. Puis souvent, ça va aller dans le bout où la personne veut que tu ailles, c'est-à-dire, hey, ça te tenterait-tu de partir en voyage? Regarde, il y a un rabais, il faut partir en voyage tout de suite. Ben, tu disais un peu, là, moi, je travaille, tu sais, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, il faut que je m'en occupe. Oui, mais là, il faut prendre la décision tout de suite. Fait qu'on veut t'empêcher carrément de réfléchir.
Oui. Puis ça commence par des petites choses. Des choses qu'on achète à l'épicerie, par exemple. Oui. Jusqu'à s'acheter un truc. Je vais acheter un truc très loin en campagne pour être sûr que je t'isole. Fait qu'il y a toujours une gradation. Puis c'est un peu à ça que sert nos discussions, Yannick, c'est d'élever les consciences puis juste d'attirer notre attention sur des choses pour que dans la vie, on soit exactement où on veut, de la façon dont on veut. Puis il y a toujours un mode progressif. Plus tu te rends compte des choses autour de toi rapidement, plus tu as la force de poser un geste positif pour toi. L'autre red flag, c'est des critiques déguisées, même en plaisanterie. Donc, l'objectif, c'est toujours d'atténuer jusqu'à briser l'estime de soi pour que tu sois beaucoup plus sous la gouverne d'eux. Hein, si tu as une estime qui est fragile, tu doutes, tu te demandes si tu es capable, etc. Ça fait que la personne qui est avec toi a beaucoup plus de chances de te manipuler parce que tu es en doute, tu penses que tu n'en vaux pas la peine. Puis tu sais, c'est des critiques déguisées. Puis moi, quand je rencontre les gens, là, ils vont me dire, ils ne sauront même pas c'est une critique.
T'as-tu un exemple à me donner par rapport aux critiques déguisées?
Hey, moi, j'appellerais ça des complimardes. Non, mais juste pour t'apporter l'image, tu comprends? Ou t'es pas sûr. Tu sais, des fois, moi, je dis à quelqu'un, c'est un compliment, ça? Non, mais tu sais, l'espèce de ta robe te ferait bien si t'avais pas des si gros seins. Ben, non, j'aurais pas dû prendre cet exemple-là, je te vois à face.
C'est très bien, mais c'est très bien avoir des gros seins, c'est correct.
C'est ça un compliment. Oui. Ta robe te ferait bien si tu n'avais pas des... C'est pas un compliment.
Je te suggère une autre technique de manipulation. T'as conscience que ta conjointe, semble avoir un nouvel ami au travail. C'est un gars. Tu es allé voir un peu sur son Facebook. Là, je prends l'exemple d'un gars versus une fille, mais l'inverse est aussi vrai, là. Donc, tu es allé voir son nouvel ami sur Facebook. C'était un beau bonhomme. Puis là, ta conjointe te parle de ce gars-là qui est son nouvel ami à job, qui vient d'arriver. Puis là, tu dis, s'il te parle, ça doit pas être un hasard. Hein? Toi, tu dois y démontrer que tu as une certaine ouverture parce qu'il te parle, fait qu'il veut être ami, il veut se rapprocher de toi. OK, ben c'est ça. OK, c'est pour ça que tu t'arranges comme ça à job. T'sais, tu vas être belle parce que c'est sûr que vu que tu es belle, ben il va venir encore te parler plus. Ça peut-tu être ça?
Ça, c'est un élément, mais pas celui que je dis. Parce que pour que ce soit celui que je dis, il faut que tu brises l'estime. Donc, j'ajouterai à ton propos, c'est surprenant qu'il s'intéresse à toi parce qu'il aime les belles femmes. Oh, tu comprends?
Ouais.
Pour briser l'estime, il faut que tu ajoutes un cran. Donc, ce que tu dis est tout à fait juste, mais si je veux briser l'estime de quelqu'un, tu sais, il faut que tu ajoutes un ingrédient qui va, tu sais, il a pas dit qu'elle était pas belle. Il a pas, tu comprends? Il a pas, tu sais, tu t'arranges bien, ça compense, hein, parce que je suis pas sûre qu'il s'intéresserait à une femme comme toi.
OK. Ouh, tu
comprends?
Je te regarde aller, puis tu retrouveras jamais quelqu'un comme moi dans ta vie?
Oh non, excuse-moi. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est, pour cet élément-là...
Tu dévalorises la personne?
Il faut que tu dévalorises. Donc, oui, tu pourrais dire ça, puis tu rajouterais « T'es bien chanceuse d'être avec moi. »
T'es chanceuse d'être avec moi.
T'es pas chanceuse t'es chanceuse d'être avec moi. Ouais. Organise-toi pour pas me perdre.
Mais moi, je dis ça, Paul, mais c'est juste quand je me regarde dans le miroir.
Oui, mais on a encore du travail à faire avec toi. Mais au moins, t'es dans la vérité. Moi, je dis tout le temps, quand on est dans la vérité, on peut pas s'égarer.
Non, c'est ça. Sûr, OK. Donc, il faut qu'il y ait une certaine dévaluation de la personne qui est en face de nous.
Okay. Oui, oui. Oui, puis c'est pas fait, c'est pas. T'es pas regardable. Ça sera pas ça. Ça va être plus dans, tu
Détourné.
comprends?
OK.
Détourné. Hey, t'as payé cher ta robe, hein? Écoute, t'aurais pas eu à payer ça parce que finalement, t'as un corps particulier.
Hey, OK. Mais
Non,
ça,
mais.
là, est-ce que les gars et les filles qui font ça, ils le font intentionnellement? J'aurais tellement peur, Paul, de dire je pense pas, dans tous les exemples que tu m'as donnés depuis le début, je crois que ne l'avoir jamais fait, là. Mais
Oh
j'aurais
non, non.
tellement peur de dire quelque chose, puis que la personne me perçoit comme un pervers narcissique ou quelqu'un qui tente de la dévaluer parce que j'ai dit quelque chose. Faut-tu se surveiller dans notre langage aussi? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui se reconnaissent ou il y a des gens qui reconnaissent leur ex là, dans leur voiture présentement. Ça veut pas dire que c'était des pervers narcissiques. Ça peut être des gens
Non.
malhabiles. Mais si tous les points sont réunis, tous les points que Paul sont réunis, vous parle, sont réunis, ben dites-vous que la personne était problématique dans votre vie.
Oui, puis, mais tu sais, il y a une différence entre progresser dans la manipulation et l'avoir échappé, puis s'excuser, on va tout l'échapper un jour, là. D'être malhabile, mais quand on est malhabile, quand l'autre nous fait une remarque, il va avoir une capacité d'acceptation. Tu comprends?
Ouais.
Alors que si je manipule, puis Claude dit, « Hey, t'es-tu en train de me dire que ma robe ne me fait pas bien? » Bon. Tu sais que tu te fais toujours des idées alors que moi, j'essaie juste d'être fin avec toi. Tu sais,
Ah,
il
j'aime
va
ça, ouais.
récupérer ce qu'il est en train de se dire comme une génératrice. Alors que quelqu'un qui est malhabile, qui l'échappe, on va tout l'échapper, Yannick. Ou qui est en colère. Quand on est en colère, on dépasse parfois la ligne de la bienveillance par rapport à l'autre. Ou quand le couple va mal, là on parle d'un couple, ça pourrait être en amitié, ça pourrait, mais un couple qui va mal est beaucoup plus dans la zone de critique, tu comprends? Mais quand on est dans la zone de critique puis qu'on est un couple qui va moins bien, on a une équivalence. Ah, gros mange-marde, ouais, c'est vrai, toi aussi, t'as mal élevé comme une marde. Il y a une escalade, mais les deux sont en pouvoir. Alors que la manipulation, un est en pouvoir, l'autre est écrasé.
Je comprends.
Ouais. L'autre élément, excuse, bien sûr, c'est le contrôle. Je décide pour toi. Et c'est là que c'est intéressant de voir pourquoi on brise l'estime. Parce que si on brise l'estime, on n'a pas confiance en soi, donc on n'a pas confiance dans la prise de décision, on n'a pas confiance sur des toutes petites décisions. Moi, j'ai vu des gens qui vont chez la coiffeuse, puis ils vont être obligés d'avoir la validation de la personne pour savoir quelle couleur de mèche elle va avoir. Tu comprends? Parce que t'es tellement en doute par rapport à toi, puis c'est pas nécessairement de la manipulation, mais il y a des gens qui sont en doute. Mais l'idée du manipulateur, c'est de l'amener dans ce rayonnement-là pour qu'il puisse tout contrôler. Je contrôle tes décisions. Je contrôle ce que tu vas penser. Je contrôle, tu sais, puis là, à l'autre côté du spectre, on prend l'idée des sectes qui vont décider comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils mangent, tu vois. Donc, le contrôle est absolu à ce moment-là, tu sais. Donc, le contrôle va commencer par s'appliquer par des petites choses. Puis c'est là que je vais attirer l'attention, tu sais. La manipulation, qui est un engrenage, va s'amplifier. Donc, si tu es avec quelqu'un qui est babouneux, puis qui fait des critiques, puis qui est. Tu sais, mais il n'y a pas vraiment d'engrenage, c'est juste un boubou, hein, tu comprends? Il y a une différence entre ça, puis se sentir de plus en plus oppressé par une situation.
Okay. Je trouve ça particulier, le contrôle, parce que j'ai entendu. Les gars ne disent pas ça, mais il y a des gars qui aiment bien avoir une femme contrôlante dans leur vie. Peut-être qu'ils
Ah oui?
recherchent leur mère au travers de tout ça. Puis j'ai déjà entendu l'inverse aussi, des femmes qui aiment bien ça, avoir un homme qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Puis asseoir, on va au restaurant, puis j'ai choisi un restaurant pour toi. Puis ça peut être perçu comme étant une forme de contrôle, mais. Qu'est-ce qui est du contrôle extrême, puis qu'est-ce qui n'en est pas? Tu sais, moi, j'aime bien les gens qui sont équilibrés. C'est cette chance-là que j'ai eue dans ma vie en relation de couple. J'ai pas eu énormément de blondes, là. Bon, je sais que mon visage fait en sorte que tu en doutes, Paul. Mais
Ben oui, là,
les blondes que j'ai
je suis
eues,
déstabilisée.
les blondes que j'ai eues dans ma vie, c'était des femmes qui étaient équilibrées. Puis c'était dans des relations qui étaient équilibrées. Il n'y avait pas toujours une. Ben oui, ça variait, mais il n'y avait pas toujours une relation dominant-dominé. Parfois, ben, c'était elle qui décidait le restaurant où on allait aller. Puis parfois, c'était moi. Puis parfois, on se consultait. T'sais. C'était tout le temps sain. Mais il y a des gars qui vont chercher leur mère dans leur blonde, puis qui vont tomber sur des femmes hyper contrôlantes, puis ça va leur faire plaisir, ça, d'être contrôlé par la femme. Puis même chose pour la fille qui va se dire, ben moi, j'aime ça un gars déterminé. Elle va aller chercher un gars qui décide d'à peu près de tout dans la maison, puis que lui, ben il s'est rendu compte que sa blonde avait besoin de ça. Puis des fois, à la fin de la relation, c'est « Ah, cette personne-là me contrôlait. » Non, non, buddy, c'est parce que tu cherchais ta mère dans ta relation. Tu voulais qu'elle fasse ton lavage. Tu voulais qu'elle s'occupe de ton compte en banque. Tu voulais qu'elle fasse tes paiements, patati, patata. C'est toi qui as couru après ce contrôle-là. La personne n'aurait peut-être pas été contrôlante dans sa vie si tu lui avais pas demandé de l'être.
Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que le contrôle, finalement?
C'est ça. Moi, à partir du moment où c'est toxique pour un, faut que tu sortes de cette relation-là.
Ben, je te dirais que le contrôle, c'est que tu ne l'as pas demandé. Si c'est une entente, tu comprends?
Je pense pas que ça se dise de même. Moi, j'ai des chums qui sont devenus des petits chats avec leur blonde, puis qu'à la fin de cette relation-là, se sont plaints parce que leur blonde décidait de tous les pans de la vie familiale. Mais buddy, c'est parce que c'est toi qui cherchais ça. Tu recherchais ta mère au travers ta conjointe. Puis à partir du moment où tu l'as trouvée, tu l'as choisie, elle est obligée de prendre en charge tous les pans de ta vie parce que toi, tu n'étais pas capable de le faire puis tu lui demandais pratiquement, pas nécessairement verbalement, mais parce que tu faisais du laxisme, elle a décidé de prendre la place. Là, maintenant, tu commences à être étouffé alors que ça fait 8-9 ans qu'elle te torche.
Dynamique. Mais là, Yannick, tu parles d'une dynamique alors que le contrôle y est imposé.
Ouais.
Une dynamique est créée par quelqu'un qui laisse la place à l'autre par manque de responsabilisation, parce que c'est plus facile. Tu sais, on peut se déresponsabiliser pour laisser toute la place à l'autre.
Exactement. Puis là, bien souvent, la relation finit, puis il y en a un qui appelle l'autre narcisse. Ah ouais, moi, j'étais avec un narcisse. Ah, elle c'était une narcisse.
Bien, on parle d'une dynamique à ce moment-là.
Ouais.
Puis, il y a des gens qui sont des victimites qui vont accuser les autres plutôt que de se regarder en disant « quelle est ma part de responsabilité?
Mm-hmm. »
Alors que le contrôle, c'est quelqu'un qui l'impose à l'autre. Alors que dans ton histoire, il a laissé la place à l'autre. Ça lui rendait bien service.
Ouais, exactement.
De ne pas s'investir et de se déresponsabiliser. Et même que, j'ose dire, qu'il se déresponsabilisait même de sa part à lui dans cette histoire.
Exactement. Mais un bon chum, ça dit la vérité. Fait que j'y ai dit. C'est pas narcisse ton ex, là. C'est toi qui as décidé de rechercher ta mère dans ta blonde. Puis vous avez décidé d'avoir des enfants. C'est elle qui était la chef familiale. Puis tu voulais jamais être consulté parce que tu voulais pas te casser la tête. Fait qu'elle prenait les décisions toute seule. Bien, une fois que la relation est finie, dis pas que c'était narcissique, là. C'est que toi, tu voulais ce type de relation-là.
Elle est devenue une gestionnaire puis elle est devenue un employé.
Exactement.
Ben, c'est ça, tu sais.
Exactement.
Puis comment il a réagi pour le fun?
Ah, il était en sacrifice, là. Mais peut-être que, tu sais, moi, je fais des suivis, là. Au bout de 2-3 semaines, quand ils m'ont pas rappelé, j'ai rappelé. Puis je dis, puis comment ça va? T'as-tu reparlé avec ton ex? T'as-tu repensé à ce qu'on s'est dit? Puis, tu sais, je sais qu'on est des gars, là. Puis des gars, des fois, on se dit pas toujours les vraies affaires. Mais c'est arrivé 2-3 fois sur peut-être les 5 chums qui m'ont dit que leur ex, c'était toutes des crises de folle. C'est arrivé 2-3 fois qu'ils m'ont dit, tu sais quoi, ce soir-là, tu me dis ça, puis je me suis rendu compte que c'était pas elle le problème, c'était moi.
Ah, c'est bon, ça.
Puis ça va les aider dans leur prochaine relation, là, de mettre carte sur table dès le début en disant, tu sais quoi, j'ai erré dans ma dernière relation parce que je recherchais probablement ma mère au travers de ma conjointe. Là, maintenant, j'aimerais ça avoir une relation égale à égale, puis que quand on prend des décisions, on les prenne à deux.
Oui. Puis tu sais, la question qui doit se poser, c'est pourquoi, ou que les gens qui sont dans ce système-là, pourquoi je me déresponsabilise? Pourquoi j'agis? Moi, souvent, j'appelle ça de l'immaturité. Hein? On est si on prend le portrait qu'elle agit comme une mère puis moi comme un petit gars, ou vice-versa, c'est parce que je manque de maturité. je suis immature.
Y en a-tu beaucoup, ça, des gars puis des filles comme ça, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine?
Quand il y a une conférence que je donne, j'en ai plusieurs titres, il y en a une que je donne où je demande aux gens de lever la main ceux qui sont vieux. Ensuite, ceux qui sont jeunes. Ben là, ils ne savent pas s'ils doivent les... Après ça, les vieux jeunes. Après ça, les jeunes vieux. Et ensuite, je leur dis, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Parce que je veux parler de notre répertoire, des choses qu'on a vécues dans la vie. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vécu. Et vécu ne veut pas dire que tu as vécu des horreurs, là. T'sais, c'est que tu t'es servi de ce que tu as vécu pour apprendre,
ouais,
pour évoluer. Tu comprends? Tu t'es responsabilisé. C'est pour ça qu'un des enseignements importants aux enfants, après leur avoir appris à être propre, à manger, c'est l'autonomie et le sens des responsabilités. Et ça, ça les aide à maturité, à maturer, ce qui les amènera à avoir du discernement, à être capable de s'investir dans leur vie, de reconnaître leurs torts, de reconnaître leurs bons coups, de faire des bons choix, puis d'évoluer. Donc, oui, il y a des gens qui sont au CHSLD, puis qui n'ont pas encore maturé. C'est pas une question d'âge, absolument.
Puis, as-tu l'impression, Paul, puis là, c'est tes observations, là, as-tu l'impression qu'avec les années qui passent, les gens sont de moins en moins matures? Tu sais, je prends exemple là, sur mon grand-père. Quand j'avais l'occasion de jaser avec mon grand-père, lui, à 12, 13, 14 ans, il travaillait très fort sur la terre, avait dû lâcher l'école très jeune. Par la suite, bon, il a réussi à devenir policier et tout ça. Mais avec sa famille, il est obligé de s'occuper de ses petits frères. C'était pas un choix personnel. Il était en mode survie. Tout le monde devait s'entraider. Il maturait très rapidement, puis il y en a qui, très tôt, partaient de la maison. Aujourd'hui, on se ramasse avec des adultes de 30, 35 ans qui sont toujours pas partis de chez maman et chez papa.
Mais tu parles d'un phénomène exceptionnel parce que moi, j'aime beaucoup regarder ce qu'était la vie d'avant pour comprendre la vie d'aujourd'hui. Puis, il y a plein d'éléments dans ce que tu dis. Bon, la première chose, tu n'avais pas le temps de niaiser parce que tu mourrais jeune.
C'est vrai.
Il y avait deux étapes de développement à l'époque.
Ouais.
Enfant, adulte, je meurs. OK? Non, mais c'était ça, là. Tu n'avais pas le temps de niaiser. Juste pour te montrer la différence où on peut s'étaler.
Enfant, adulte, je meurs. Ouais, c'était ça.
Mais c'était ça, là. Regarde aujourd'hui, il y a petit enfant 0-5 ans, enfant 5-8 ans, ado 9-12 ans, pré-ado 9-12 ans, ado 12-17 ans. Comme il n'était pas encore assez mature, on a rajouté 17-24 ans qui est jeune adulte. Puis maintenant, on dit qu'on a deux vies d'adulte, parce que quand les gens arrivent à l'âge de la retraite, il leur reste encore un grand bout actif dans notre société. Tu comprends?
Oui.
Fait que compare ça à 1920, tu comprends? Fait que t'as le temps de t'étaler, là. Tu comprends? Plus, c'est comme quand tu mets de la glace dans un... Tu mets de l'eau dans un contenant, elle va prendre l'espace qu'il y a là. L'autre élément que je remarque, c'est qu'on est beaucoup dans le papier bulle. Donc, est-ce qu'on prépare bien nos jeunes à la vie? On les frustre pratiquement pas. En tout cas, il y a une tendance à moins les frustrer. Beaucoup dans le papier bulle. Tu sais, quand tu dis que les enfants peuvent même plus être le roi de la montagne, ils se bousculent, c'est ouch. Non, mais tu comprends que la première peine d'amour, ils sont dévastés, ils sont pas préparés. Puis la maturité, c'est un peu de dire, est un petit peu la vie dure, pas difficile, dure, c'est-à-dire te confronter un peu à trouver des solutions, sentir de la frustration, pour être capable de maturer, tu sais. Avant ça, t'allais jouer, puis tu sais, on n'a pas 100 ans, mais moi j'allais jouer dehors, je faisais juste dire, bye! Non, mais je disais ça, bye! Quelle heure tu reviens, Paul? Viens pour dîner, c'était tout, OK? Elle me disait pas, tu vas où, tu fais quoi, etc. Là, aujourd'hui, c'est tu vas où, je te mets une puce après la fesse, ça prend un chapeau, une crème solaire, des genouillères, un truc politique.
Tu vas être avec qui?
Puis, on a évolué, puis Dieu merci, on protège des enfants. Mais est-ce qu'on est dans la surprotection? Et pour maturer, il faut que je sois capable d'être en contexte avec des difficultés pour gérer mes frustrations, voir quelles solutions je vais trouver, comment je vais me mobiliser par rapport à ça, tu sais. Fait que souvent en conférence, je dis frustrez vos enfants. Je fais partie d'une école qui est archaïque, mais je leur dis, frustrez vos enfants.
Oui, mais pas tant, parce que je me souviens de... Je me souviens pas qui m'avait dit cette phrase-là, mais en fait, c'était probablement pas à moi, mais c'est une phrase peut-être que j'ai lue. C'était un personnage célèbre qui disait « Les temps durs donnent des gens forts. Les temps faciles donnent des gens faibles. »
Ben, c'est... ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est l'éducation de ma grand-mère. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour être bien prêt, puis là, on n'est même pas à côté de nos pompes quand on parle de ça au niveau du sujet du jour, parce que plus on va faire des adultes forts, moins ils seront vulnérables à la manipulation. Parce qu'ils sont capables de s'analyser, de s'interroger, de s'affirmer, de mettre leurs limites, d'être extra-lucides. Extra-lucides veut dire voir les choses, dire « voyons, ça n'a pas de bon sens », t'sais. Se faire assez confiance pour dire « voyons, c'est quoi ça ?» Fait que, on est dans un air, effectivement, où, puis je trouve ça difficile, les extrêmes. Hein? Tu parlais d'équilibre, on est tombé dans l'électronique avec les cellulaires, puis les écrans, puis là on a capoté, puis c'était merveilleux. Puis c'est vrai que ça l'est, tu sais, ça nous permet d'être ensemble aujourd'hui.
Ouais.
Mais là, on est en train de sombrer dans l'autre extrême. Là, il y a un courant de pensée qui est beaucoup dans Satana, les cellulaires, Satana, les. Tu sais, les profs n'ont plus le droit de l'utiliser comme méthode éducative, les écrans, tout ça. Et souvent, on voit ça, on va aller à l'autre bout du spectre pour revenir dans le centre. Là, tu sais. La maturité, pour moi, c'est l'équilibre. C'est la capacité d'enseigner aux humains, pas enlever le plat de bonbons, leur apprendre à en manger au bon moment.
Puis, bon, on est dans les red flags là, pour ce qui est de la manipulation psychologique, mais admettons que je te demandais à toi, pour l'évêque spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée, c'est quand tu rencontres quelqu'un, sur quoi on se base pour dire que cette personne-là est mature versus cette personne-là manque encore un peu de maturité? Peu importe l'âge de la personne. Quand tu regardes cette personne-là, tu te baserais sur quoi avec tes connaissances?
Bien, je te dirais l'autonomie, le sens des responsabilités, qui est directement relié à la maturité. Mais je te dirais que les choix qu'on fait vont être un bon indice de notre maturité. Si tu fais des bons choix, en fonction de ton âge, là, tu sais, je veux dire, à 4 ans, tu ne fais pas les mêmes choix qu'à 60 ans. Si tu fais des bons choix dans ta vie, c'est que tu as du gros bon sens. Tu as du discernement. Et pour moi, ça va ensemble. C'est pour ça qu'un enfant de 4 ans, tu ne le laisses pas conduire en auto parce qu'il n'y a pas le discernement. C'est pour ça que tu dis, ben, à 16 ans, tu pourras conduire. Fait que la maturité, ça va avec le discernement, la capacité de prendre les bonnes décisions par rapport à soi puis par rapport aux autres. Donc, quelqu'un qui est devant moi et qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, ce n'est pas nécessairement de l'immaturité, mais ça peut être un élément. Ça, c'est sûr.
On continue avec nos fameux red flags de la manipulation psychologique.
Te faire douter constamment. Okay. Remettre en question ce que tu dis. T'amener à penser que ce que tu dis, c'est pas la bonne réponse. Ah ouais, t'as fait ça? Pas sûr, tu sais. Toujours t'amener dans le doute pour justement t'offrir la possibilité que moi, je puisse le faire à ta place parce que j'ai tellement plus de compétences et de connaissances. Donc, te mettre en doute. Donc, on travaille sur l'insécurité et la confiance en soi encore. Fait que, puis c'est tellement insinueux, là. Tu sais, le négatif est 5 fois plus fort que le positif. Ça prend pas grand-chose pour que tu te mettes à te douter de toi en général. Hein? Alors, tu vois, puis tu sais, des fois, les gens... Moi, je dis toujours, ce qui rentre dans les oreilles rentre dans le cœur. Il y a bien des gens qui vont dire, moi, ça me dérange pas ce qu'il va dire. Ben non, ça finit par nous influencer. Tu sais? Surtout si tu es en doute par rapport à toi. Si tu es fatigué un matin, trouve moche tout ça, puis tu rencontres quelqu'un qui te dit justement, mon Dieu, t'as l'air fatigué, ben le fait que t'es en doute plus le commentaire de l'autre, hey, là, tu te mets à faire toutes les miroirs en disant, voyons, je suis pas chée, c'est la couleur de mes cheveux, je suis malade, m'en prendre un rendez-vous avec le médecin.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que le manipulateur ou la manipulatrice va affaiblir l'autre pour que cette faiblesse-là soit compatible avec les doutes amenés, puis que tu te dises, ben voyons, donc tu vois l'autre comme un potentiel beaucoup plus important que toi. Donc, c'est là que tu finis par voir l'autre grand, puis toi petit. Il y a un décalage qui se met en place.
C'est le pouvoir des mots aussi, hein? Tu sais, quand tu n'as pas nécessairement confiance en toi, tu arrives à la job, là, t'en as une qui te dit, mais ça, t'as de l'air fatigué, juste parce que tu t'es pas peigné, exemple. L'autre arrive au bureau, mais ça, t'as de l'air fatigué. Ça doit être dur sur le système. Puis je me souviens d'un conférencier qui était venu en entreprise qui avait dit, ça, là, la personne qui est fatiguée ou pas, c'est pas de vos maudites affaires. Donnez juste, hey! Oui, c'est donc bien le fun de te voir. Et passe une belle journée, puis on s'en jasera tantôt à machine à café. Ça peut faire changer le mindset de la personne qui est peut-être fatiguée cette journée-là. Tu sais. Ah, right, il est content de me voir. Tu sais. Plutôt que de se faire dire t'es fatigué.
Ah oui. Les mots nous conditionnent. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, mais c'est clair que les mots nous conditionnent. Ouais. Et tu finis par porter une étiquette. Donc, à force de dire à quelqu'un, mon Dieu, que, je sais pas moi, toi, t'es brouillon, hein? Tu gardes comment t'es désorganisé tes feuilles. Bye, bonne journée, une autre journée. Ah ouais, toi, t'es le brouillon, hein? En réunion d'équipe, ouais, mais lui, il est brouillon, demandez-y pas d'être le rédacteur de ce qu'on est en train de faire en équipe. Tu sais, Le cerveau finit par acheter. Et les étiquettes sont extrêmement visibles à l'adolescence. La populaire, le sportif, la bitch, tu sais, je veux dire, c'était très campé, tu te rappelles, hein? L'artiste, etc. Mais en vieillissant, ces étiquettes-là, s'incrustent ou évoluent, mais ils vont être assurément influencés par, puis plus tu es proche de quelqu'un, plus son discours va avoir de l'importance. Fait que la meilleure façon de façonner un enfant, par exemple, c'est de lui vendre une étiquette. Mon Dieu que t'es paresseux. Toi, t'es paresseux. Ben, moi, je te dis, toi, c'est que de 21 jours, il devient. Fait que t'as raison. On peut projeter autre chose, puis semer une hypothèse différente dans le cerveau. Tu sais, au lieu de dire t'es brouillon, dire hey, toi, là, t'es un gars créatif. Organiser ça autrement, c'est facile pour toi. Donc, t'es en train de générer la possibilité qui arrange peut-être son fouillis autrement, mais tu vas aller puiser dans une hypothèse positive. Tu comprends? Donc, tu sèmes le doute qui est peut-être pas si brouillon que ça, mais peut-être que sa créativité pourrait créer autre chose. Donc, quand je manipule quelqu'un, je vais utiliser effectivement le poids des mots pour lui vendre une étiquette.
Pour détruire sa confiance en elle ou encore sa confiance en lui.
Puis vendre une étiquette. Une étiquette que je vais porter. Ah, moi, je suis pas bonne ou moi, je suis bon, etc. Le chantage et les menaces. Les menaces vont devenir importantes dans un deuxième cycle. Parce que comme on a vendu l'idée qu'elle est tellement chanceuse d'être avec nous, ou chanceux d'être avec nous. Des menaces qu'on va quitter, des menaces qu'on... Donc, il y a des menaces puis du chantage. Là, on arrive à un autre step, là. Tu comprends? Donc, ça fait partie de la manipulation. Mais là, on est vraiment dans un step...
Mais j'en ai déjà fait, ça, Paul.
Oui?
Ben oui. J'ai déjà dit, ah, là, si t'es pas gentil avec moi aujourd'hui, t'auras pas de sexe à soir. Puis, elle changeait pas son attitude, c'est...
Peut-être que tu lui faisais plaisir en lui promettant qu'elle n'aurait pas.
Ouais, c'est peut-être ça. Mais pourtant, peut-être j'essayais de faire des menaces, là, mais ça a vraiment pas marché. Là.
Oui. Ben, écoute, les menaces font partie du comportement humain. Là.
Mais ça commence très tôt dans une relation, que ce soit une relation amicale ou encore une relation amoureuse pour ces gens-là qui sont des manipulateurs psychologiques, les fameuses menaces.
Ça vient un petit peu plus tard. Tu sais, on a installé comme... un terrain fertile avant la semaine.
Instaurer un schéma de confiance.
Oui, puis comme tu ne crois plus en toi, comme tu te mets en doute par rapport à toi, tu ne veux plus perdre cette personne qui t'aide à prendre des décisions, cette personne qui te guide. Et n'oublie pas, il t'a isolé. Fait que tu ne veux pas le perdre, il reste rien que lui. Il est toute ta vie, tu comprends? Fait que là, les menaces deviennent... C'est pour ça qu'en créant tout ça, en un deuxième temps, les menaces deviennent très puissantes parce que tu n'as plus grand-chose, tu n'as plus ben d'estime, tu n'as plus de confiance, tu n'as plus grand monde autour de toi. Tu comprends? Fait que ces menaces-là deviennent... C'est comme la punition qui pourrait arriver et que tu ne veux pas avoir.
Paul, il reste à peu près 2 minutes sur le sujet des manipulateurs psychologiques.
J'ai envie de faire un petit mini sprint sur des... Là, on a parlé des red flags, mais juste allumer les gens pour dire on a du potentiel, on a du pouvoir, vous pouvez faire quelque chose, donc quelques gestes à poser. OK? Pour ne pas rester dans la manipulation ou ne pas la laisser s'installer. Premièrement, écoute ton intuition. Ton intuition, là, peu importe t'es qui, quel âge tu as, peu importe ce que tu as vécu, l'intuition, c'est la petite voix. On l'a toute. Quand je parle aux gens, ils me disent toujours si j'avais écouté ma petite voix, si j'avais écouté mon intuition, je le savais, je le sentais. Ils me le disent après coup. Mmh. Écoutez donc votre intuition. Puis dès qu'elle vous parle, là, ça ne veut pas dire qu'il faut agir tout de suite, mais tu sais, voyons, pourquoi il dit ça de ma mère? Tu sais, écoutez ce que votre instinct vous dit. Pose des limites claires dès le départ. Je ne veux pas que tu me parles comme ça. Tu sais, place une limite claire de ce que tu veux et tu ne veux pas. Demande toujours un time out avant une décision. Si on te pousse à prendre une décision rapidement, puis tu sais, les gens vont le faire quand ils veulent vendre une voiture, par exemple. Hey, là, c'est là qu'il faut que tu l'achètes. C'est la dernière date où tu peux avoir ce prix-là. Ça n'est de la manipulation.
Hey, c'est donc drôle ça, que tu dises ça, parce que j'ai eu cette discussion-là sur Christine Fréchette, celle qui devient notre première ministre du Québec. Moi, je considère ça comme étant une force, quelqu'un qui dit « Je ne prendrai pas une décision tout de suite. Je vais réfléchir, je vais consulter et par la suite, je vais revenir avec ma décision. » Puis Bernard Drinville disait de Christine Fréchette c'est long avec à prendre des décisions. Fait qu'il y en a pour qui ça peut être très négatif, des gens qui sont longs à prendre des décisions. Mais pour moi, une décision réfléchie, une décision où la personne a consulté d'autres personnes, des acteurs importants du domaine dans lequel elle est en train de se poser des questions, moi, je trouve que c'est une preuve d'intelligence et il y en a d'autres qui perçoivent ça comme une preuve de faiblesse.
Bien, je pense que on n'a pas tous la même vision de la longueur du time-out. C'est là que ça peut jouer. Tu comprends? Il y a des gens qui vont être beaucoup plus rapides dans la prise de décision. Ouais. Leur timeout va être plus court. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu un. Alors qu'il y en a d'autres que ça finit plus de finir. Là. Le timeout, il est long.
Mais
long,
si ça touche ma vie, je peux bien prendre le temps que je veux. Pose pas à ma conjointe ou mon conjoint, si j'étais une femme, mon conjoint, de prendre la décision quand est-ce que je dois prendre ma décision. Si ça touche ma vie, ça touche mes enfants. Pas ma nouvelle blonde qui va décider quand est-ce que je vais prendre ma décision. Ça va être quand je vais être prêt à la prendre. Il faut savoir s'assumer dans la vie.
Oui, bien, si la décision n'a pas d'impact ou n'induit pas l'autre, exact. C'est pas la même façon voilà. Que si c'est ta décision personnelle. Puis plus c'est difficile, plus le time out va être long.
Parfaitement d'accord.
Puis l'autre élément... Parlez avec vos proches pour avoir un regard extérieur. Et ça, je remarque ça. Les flags sont arrivés de la bouche des autres, mais tu n'as pas voulu les écouter, tu n'as pas voulu les entendre. T'sais? Fait que ça fait bien ton affaire des fois de t'éloigner des autres parce que tu as un double message que tu ne veux pas entendre. Fait que si vous sentez qu'autour, ça fait 3-4 personnes qui attirent votre attention sur quelque chose, peut-être que ce serait bien de remettre en question les choses.
Ouais, choisir les gens à qui on se confie aussi, ça prend des personnes qui sont capables d'être neutres dans une situation donnée, parce que très souvent, les amis, que ce soit des amis de filles ou des amis de gars, ont tendance à prendre votre bord.
Oui.
Puis on a des amis, puis des amis de gars, des filles, qui sont là en disant tout le temps, « Attends un peu, là, toi, c'est ta version des choses. Mettons que je te demande à lui ou à elle sa version, elle me répondrait quoi? » Tu pourrais essayer de se faire un topo à peu près exact de l'histoire qui lui est mentionnée. Là. Parce que chaque fois qu'on raconte une histoire concernant notre vie puis nos déboires avec nos amoureux, nos amoureuses, on est toujours le héros de notre propre histoire. Puis un héros, ça peut pas se tromper, ça peut pas faire des erreurs.
Oui, mais en même temps, là, si t'es proche de quelqu'un, c'est pas tant ce qu'il dit, c'est son changement de comportement qui va attirer ton attention. Tu comprends? Ce qu'on dit, effectivement, c'est porté à interprétation, etc. Tu peux avoir des confidences, mais tu vas avoir des changements de comportement.
OK.
Sois attentif, tu vas le voir. Puis une des choses importantes, parce que je sais qui nous reste très peu de temps, la dernière chose que je pourrais dire, c'est ne partagez pas tout. Gardez un compte en banque ou à la caisse, peu importe, à vous. Parce que le problème, c'est le contrôle. Donc, tout est contrôlé par l'autre. Donc, garde-toi une autonomie financière. Garde-toi un jardin secret. Ne dis pas tout. Tu sais? Puis ça, j'avais une discussion lors d'une autre chronique où on disait, faut-tu tout dire? Ben, attends, sinon, peux-tu avoir un petit peu notre jardin secret? Puis c'est ta protection aussi. Tu comprends?
Oui.
Fait que soyez vigilants quand vous êtes en relation. Peu importe, gardez-vous quelque chose que l'autre ne pourra pas toucher.
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. Ce soir, on parlait de la manipulation psychologique. Comment la reconnaître? Donc, les red flags de la manipulation psychologique. Le podcast sera disponible dès demain sur nos différents sites Internet. Pour les gens qui veulent te rejoindre, toi, parce que tu es une spécialiste du comportement humain, mais tu es aussi une éducatrice spécialisée, ils peuvent te rejoindre comment?
Paul Lévesque, pas d'accent. Tu tapes ça, je vois apparaître. PaulLévesque.net. Paul Lévesque sur Facebook, Paul Lévesque, maintenant j'ai des capsules. Ah, et puis j'ai rarement des conférences grand public, tu sais, j'en donne 3-4 par semaine, mais là, il va y en avoir une le 2 mai, un samedi, c'est ça le 2 mai?
Le 2 mai, un samedi, une conférence pour aller voir Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. C'est donc bien le fun, ça.
Souper conférence, t'invite.
Souper conférence?
C'est un souper conférence, donc les gens peuvent souper, mais ils peuvent aussi juste venir me voir. Donc, tu peux acheter un billet pour. Tu sais, c'est rare, c'est grand public. Tu sais, c'est toujours. Je peux pas vous inviter, mais là, je peux le faire. Fait que. Puis, j'aime tellement ça. Tu sais, des fois, les gens me disent, oh, je t'ai vu à l'épicerie, je t'ai vu là, j'ai posé. J'ai tellement de bonheur à accueillir les gens. Puis, tu me connais, tu sais que c'est pas du fake, là.
Ouais.
Tu sais, j'ai du bonheur à accueillir les gens parce que ma seule raison, c'est d'entrer par toutes les petites failles pour faire du bien. Puis, c'est ce que tu fais, Yannick. Tu fais ça aussi à ta façon. Puis, si tout le monde prenait un peu soin des autres, ça veut dire qu'on pourrait recevoir à notre tour ce qu'on a besoin le moment où ça nous est demandé.
Paul, va-t'en pas loin. Je vais te garder quelques minutes après la pause. On fait une courte pause, les amis, puis on vient.
Marceau, le soir. Le segment que personne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Mais là, de voir qu'il y a une première ministre non élue qui rentre en place, je trouve ça agaçant un peu.
La dauphine de François Legault, c'était elle. La candidate désignée, c'était elle. Les autres se sont toutes tassées, sauf Bernard Drinville qui clairement avait pas reçu le mémo puis qui a décidé de fucker le plan de match.
Ben, chose certaine, il a foutu la marde dans le cac, Bernard Drinville.
Oui.
La salle était séparée en deux. La gang à fraîche la gang à Drinville.
Sa décision à lui aujourd'hui là, est importante en tabarnouche. Là.
Quelle décision il peut prendre?
Ben, s'il s'en va, mettons, rejoindre Éric Duhaime. Moi, je te le dis, transfuge une fois, transfuge deux fois. Ça a l'air que le deuxième meurtre est moins pire que le premier. Donc, à partir de... Non, mais c'est ce que les meurtriers disent.
Ah oui?
J'ai vu des documentaires. Ça a l'air que c'est le premier qui est le pire. En tout cas, dans le parrain, c'est ça qu'il disait.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h55.
Ce segment d'émission présenté par Option Paysagiste. Imaginez une cour parfaite, pavée, piscine, éclairage chaleureux et espace pour relaxer et recevoir. Pour votre cour de rêve, c'est optionpaysagiste.ca. Chapeau Ben Lévy fête son premier anniversaire. Du 1er au 3 mai, stand de hot dog, dégustation, tournez la roue et courez la chance de gagner des centaines de cadeaux au magasin de Lévy.
Vous avez un véhicule à vendre? Chez Lévy Ford, on rachète votre véhicule sans obligation d'achat. Toutes les marques sont acceptées et obtenez la meilleure valeur pour votre véhicule. Et si vous voulez changer, Lévy Ford a aussi les meilleures offres pour votre nouveau camion. Lévy Ford, les forts de Lévy.
Salut, c'est Boucher.
Salut, c'est Lortie.
Lortie, si je veux être confortable dans la maison cet été, je fais quoi?
On commence par faire le tour de chez vous, la ventilation, l'installation électrique.
Avant même de choisir la thermopompe?
Exact, parce qu'une thermopompe performe vraiment quand tout le reste suit.
Fait que c'est pas juste une question d'appareil.
Non, c'est une question d'ajustement, de précision.
Puis d'expertise.
Et quand c'est fait comme il faut,
tu le sens.
Thermopompe, énergie et optimisation.
C'est notre affaire.
Appelez-nous au 418-622 2-3-2-3-2-3 ou faites une demande de service en ligne.
Boucher,
Lortie,
c'est réglé.
Jusqu'au 30 mai, chez Pièces d'auto économique, les plaquettes de frein Bosch sont à 20 % de rabais. Ajoutez 15 % de rabais sur les disques de frein BrakeMax et jusqu'à 20 % de rabais sur les essuie-glaces Rain-X. Meilleur rapport qualité-prix-service de l'industrie. Pièceséconomique.com.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec. Nous avons plus de 800 véhicules à moins de 20 000 $ en inventaire. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on le direct.
Le soleil est sorti, mais dis-moi, tes yeux sont-ils prêts? Ce printemps, Iris t'apporte le soleil et les économies. En ce moment, économise 150 $ sur les lunettes solaires avec prescription et profite de 50 % de rabais sur les lentilles de ta deuxième paire. Parce qu'on va se le dire, nos yeux méritent une paire pour l'intérieur, une paire pour l'extérieur. L'événement solaire Iris est en cours jusqu'au 28 juin. Iris, vision d'exception, style remarquable. Visitez iris.ca pour plus de détails. Dr. Jaël Saint-Jacques, optométriste.
Bonjour.
Marie-Lou, qu'est-ce que tu fais chez un concessionnaire Hyundai?
C'est l'événement Avantage Hyundai. Je donne un coup de main.
C'est quoi l'événement Avantage Hyundai?
C'est l'Elantra Essential 2026 en location à partir de 73 $ par semaine avec 0 $ d'acompte.
0 $?
0 $.
0 0.
0 0. En plus d'un boni du printemps.
Un boni?
Puis une garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans, la meilleure garantie sur véhicules neufs de sa catégorie.
5 ans.
5 ans.
5 ans.
5 ans. Location 60 mois au taux de 4,99%. Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Chez Can-Am Pont, on fait pas juste travailler le métal. On bâtit le Canada. D'ici et enracinée depuis des décennies, l'entreprise réalise des structures majeures qui relient les communautés d'un bout à l'autre du pays. De la conception à l'installation, chaque pièce passe entre les mains de nos passionnés. Joignez-vous à notre équipe. On cherche des soudeurs, des assembleurs, des mécaniciens et des ingénieurs. Formation, sécurité, esprit d'équipe, projet concret. Can-Am Pont vous attend. Postulez maintenant sur canamembauche.com pour une carrière solide.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En avril, offrez-vous la Kia K4 2025 à partir de 85 $ par semaine à l'achat sur 84 mois. Passez-nous voir à Beauport.
Kia Beauport, une histoire de famille.
T'as besoin de plus de temps dans ta journée, puis t'as ton permis classe 1 ou de classe 3? Ça donne bien, Service alimentaire Gordon recrute. Avec une gamme d'avantages sociaux plus que complète et des horaires qui te permettent d'avoir encore plus de temps pour toi et ta famille, pourquoi tu te poses encore la question? Deviens chauffeur-livreur classe 1 ou classe 3 chez Service alimentaire Gordon. Simplifie ta vie, postule au recrutement à gfs.com.
Envie de renouveau ce printemps? Nous aussi! À l'Institut Diva, on s'est refait une beauté avec un tout nouveau site web et une boutique en ligne repensée. Offrez-vous une pause avec nos services de coiffure, massothérapie et esthétique. Rendez-vous au institutdiva.com.
Tu penses t'acheter une voiture prochainement? T'en veux pas une neuve, mais une comme neuve? Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Va voir nos comme neuves au comme-neuve.com.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, est encore avec nous pendant quelques secondes. Paul, t'as parlé de jardin secret dans une nouvelle relation ou dans une relation à court, moyen, long terme. C'est quoi l'importance de conserver notre jardin secret? Parce que je vais t'avouer une chose, j'en ai jamais gardé de jardin secret. Je suis pas capable. Moi, quand on me demande quelque chose, je réponds. Ben, c'est sûr que je contrôle un peu la façon dont je réponds, là, mais pour le reste, j'en ai pas de jardin secret. Pourquoi faut garder un jardin secret avec nos amis, avec nos conjoints,
ta définition.
Conjoints?
Quelle est ta définition du jardin secret?
Ben, je sais pas. Nos anciennes relations, comment c'était, patati et patata. C'est sûr que je rentre pas dans l'intimité de mes anciennes conjointes. Ça, c'est de leurs affaires. Puis, j'embarquerai jamais là-dedans. Mais pour le reste, j'en ai pas. Je suis un livre ouvert.
Ça, mais garde, le fait de ne pas raconter l'intimité de l'autre personne, ça fait partie de ton jardin secret.
OK, ouais, c'est une OK, ouais, je comprends de quelle façon tu
comprends?
Vois ça. En même temps, tu vois les valeurs de la personne. Tu sais, exemple, comment c'était avec tes anciennes conjointes au niveau sexuel. Tu sais, ma première phrase, c'est, ben, tu sais, c'est je vais garder ça entre moi puis elle, tu sais, c'est juste entre moi puis elle, ben la personne avec que je viens de rencontrer dit OK, ben il va faire la même chose si un jour moi et lui ça finit, ben il va garder cette portion là pour lui, tu sais. T'envoies tes propres valeurs de cette façon-là.
Alors tu confirmes que tu as un jardin secret.
Bon Dieu, je deviens de plus en plus intelligent grâce à toi.
Non mais tu sais, je veux dire il y a plein de choses que tu gardes dans ton jardin secret, tu sais. Puis je vais te donner des niaiseries là. Mettons que tu étais petit puis que tu as vu ta mère tout nue passer parce qu'elle passait de la chambre de bain à... Tu n'auras pas nommé ça à personne.
Non, tu as plus tendance à vouloir l'oublier.
Donc, ça fait partie de ton jardin secret.
Ben oui.
Après, notre jardin secret, c'est des choses qui nous habitent, qu'on a vécues, qui appartiennent à personne d'autre.
Ouais. Donc, Paul Lévesque, avant la pause, tantôt, tu as parlé d'une conférence qui est ouverte à tout le monde. Je rappelle aux gens que tu es spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialiste.